Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 225e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 11 décembre et au programme de ce soir, les sorties de la semaine en VO, avec notamment chez Marvel le dernier chapitre d'Axis qui démarre dans son 7e épisode, la suite de Spider-Verse, des annuals en pagaille et la nouvelle série Spidey and the X-Men. Nous aurons dans la partie indé une sortie très attendue Bitch Planet qui débarque, mais aussi The Valiant, la nouvelle série Valiant par Jeff Lemire. Enfin, du côté de DC, une seule lecture cette semaine pour faute de temps, mais c'est Bunny qui s'y est collé en nous parlant de Batman Eternal numéro 36. Comme d'habitude, à la fin de chaque partie, vous retrouverez les TP sortis cette semaine afin de pouvoir compléter vos lectures que vous auriez ratées. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi pour vous présenter toutes ces nouveautés, nous avons un Bruno totalement malade.
Oui, c'est moi, Bruno, l'ourson trop mignon.
qui en a plein dans le nez, mais c'est du miel.
C'est ça, exactement.
Ça peut se boire à la source. C'est bien, on commence ce podcast de façon très, très glamour.
Ouais, très glamour.
Et bien sûr, nous avons aussi Mister Nebony.
Bonsoir à toutes et à tous, et je suis malade aussi.
Et qui, lui, a le miel dans son nom.
Voilà. Voilà. Exactement.
Donc Bruno, l'ours mignon, qui aime le miel qui coule de son nez, et Bunny qui en a dans son nom, vous faites le rapport vous-même.
Voilà. Et on est malades tous les deux, donc c'est qu'on a dû se rouler des pelles.
Bon. Je préfère l'avoir dans mon nom que dans mon nez, hein, personnellement.
Va savoir qui t'a mis le miel dans ton nom.
N'importe quoi.
Ça commence très bizarrement,
ouais,
cette émission.
C'est vrai, c'est clair.
Justement, ce qui est très bizarre, c'est le premier numéro qu'on va chroniquer cette semaine. Il s'agit du Axis numéro 7, première partie du troisième et dernier chapitre de cet event. C'est donc bien sûr écrit par Rick Remender avec au dessin Adam Kubert. Et nous avons un ancrage de Adam Kubert lui-même. C'est un numéro en demi-teinte, j'ai envie de dire. L'histoire n'avance pas beaucoup dans ce numéro. On est en le titre du chapitre, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, le titre de cette dernière partie s'appelle New World Disorder. Et on est avec les X-Men qui ont été inversés, rappelons-le, hein, qui veulent faire péter une espèce de bombe afin d'éradiquer l'espèce humaine, tout simplement. Ils vont détruire tout ce qui n'a pas de gène mutant, mené par ce Apocalypse nouvellement revenu à son état ancien.
Ouais, limité à New York hein, pour l'instant. Mais
Limité à New York, mais avec pour plan de le faire pour ensuite le reste du monde, si le reste du monde ne veut pas s'y coller et respecter les mutants comme race supérieure. Et le seul, en tout cas les deux seuls héros à ne pas avoir été impactés, ou en tout cas celui qui a été impacté reste du côté des héros, il s'agit bien sûr de Deadpool et Spider-Man. Spider-Man n'a pas été impacté et Deadpool est devenu un moine bouddhiste, mais bon, il est quand même gentil.
C'est Zenpool,
effectivement. Ils seront assistés par toute cette nouvelle équipe de Avengers complètement étrange. Référez-vous notamment à la cover pour voir de qui on parle. Alors, il y a cette baston sur une bonne partie de l'épisode entre les X-Men et ces Avengers. Et puis, pendant ce temps, en Latverie, la sorcière rouge a décidé de se venger de sa famille. Voilà. Ouais. C'est surtout cette partie-là qui est la plus intéressante, on va dire.
Oui, c'est celle qui va faire parler, qui va faire débat, puisque, mine de rien, il s'y passe quelque chose d'assez important pour la continuité. Même si on sait que c'est un comics, ça se trouve tout va être annulé ou expliqué dans le prochain numéro, mais en tout cas ça laisse pas mal de questions en suspens et c'est assez intéressant, moi j'ai trouvé.
À mon avis, ce sera pas annulé parce que Avengers Age of Ultron.
Exactement. Mais donc quelque chose voilà de gros quand même qui concerne justement la sorcière rouge et sa famille. Et aussi une dernière image assez choquante, très violente, et même si un petit peu anticlimactique quand on connaît le personnage qui est touché par cette grosse phase de violence, mais
Ah, laissez-moi deviner, c'est Nick Fury qui se fait couper la tête.
Alors,
Tu vois, il se fait décapiter,
pour le
peut-être.
coupage de tête, tu as raison, pour la personne, non.
Non, mais bon, on laissera
Ah,
deviner
mais
les.
alors ils sont originaux, alors dis donc, encore quelqu'un qui se fait décapiter chez Marvel, il y a une promotion en ce moment.
Ouais, c'est un petit peu trash. Mais sinon, c'est un numéro que j'ai trouvé quand même assez efficace et voilà, ça m'a. C'est surtout la partie qui concerne la sorcière rouge qui m'a intéressé et la conclusion un petit peu de cette histoire que Remender avait lancée dans Uncanny X-Force, qui concerne le personnage d'Evan et sa relation avec Deadpool, qui du coup est assez. Bah, on en arrive à un petit point culminant de cette relation et ça se finit voilà, de façon assez étonnante.
Bah, moi, comme je disais, ce qui m'a un peu gêné dans ce numéro, c'est cette baston qui prend tant de place et qui n'est franchement pas très attrayante. Elle n'est pas forcément bien racontée, elle est un peu brouillonne même, je trouve, sur certaines cases. On s'y perd un peu.
Tiens,
Certains personnages sont un peu inconsistants.
je feuillette les premières pages, on dirait du Eric Larson. Il a pas bossé dessus quand même.
Non,
Non,
non.
c'est du Adam Kubert. Mais franchement, il y a vraiment des personnages, on dirait qu'ils ont été dessinés par Eric Larson, quoi. Je sais pas si vous avez cette impression sur les premières pages, mais c'est
Ah, tu penses
surtout
notamment à sa
le.
Rogue?
Et à l'homme molécule, là, je sais plus comment il s'appelle, l'homme absorbant.
Ouais. Oui,
C'est
oui.
vrai, c'est vrai, ouais.
C'est peut-être pas le meilleur Quebert qu'on a pu
La
voir, mais.
pose, c'est vrai que la pose, la teinte verte de Rogue, etc., on se croirait vraiment dans un comic de Savage Dragon, quoi.
Ah ouais, non, mais totalement, quoi. Je regarde, là, je découvre les premières pages et je me dis,
Et
oula.
le côté décomplexé, hein, quand même, de la bagarre. À noter qu'il y a un petit peu d'humour, quand même, qui est assez
Oui.
sympa avec justement Carnage et Deadpool qui ont quand même le beau rôle, au niveau des blagues. Et un Spider-Man complètement,
Inefficace.
inefficace et en sidekick, donc ce qui est assez amusant. Voilà, c'est comme tu dis, c'est un épisode de transition, hein. C'est le début du dernier acte. Ça vaut pour un gros point de continuité qui est remis en question et qui effectivement aura des répercussions dans le film, dans les films, dans le Marvel Cinematic Universe et dans d'autres comics.
Et qui va surtout demander énormément d'explications.
Ouais, exactement. Et voilà, donc au final j'ai passé un bon moment et j'ai qu'une envie, c'est quand même de lire la suite, sachant que ça se termine sur quand même un petit cliff assez intéressant.
Moi, un Cliff, moi, qui m'a fait de la peine, parce que, enfin, de Cliff, hein, pour quiconque connaît un tout petit peu le Marvel Universe, bah, il n'y a pas de Cliff, quoi.
C'est plus par rapport au décompte, parce qu'effectivement, oui, concernant l'autre,
Oui,
c'est pas très.
oui. Ah, oui, d'accord, oui, le décompte, oui.
Même si, bon, c'est du comics, mais. Voilà.
Oui, c'est vrai, effectivement, j'avais pas pensé au décompte, oui.
C'est l'arrivée de Spawn. C'est ça, après Angela.
Bref, moi, je vais quand même dire un bail. Pour voir le début de ce troisième chapitre, évidemment, et puis pour ce changement de continuité,
Ouais,
voilà.
un bail honnête aussi pour moi
Mais un petit bail, voilà.
et puis il me tarde qu'on puisse en discuter un peu plus profondément justement dans quelques semaines de ce changement.
Et puis espérons que les deux prochains numéros, qui seront les derniers de Axis, relèvent un peu le niveau de ce début de chapitre 3, que je trouve un peu mou quand même. Malgré la baston, je trouve un peu mou en termes de contenu, d'histoire,
Ouais,
quoi.
je comprends.
On va continuer avec le Amazing Spider-Man numéro 11, Mr. Ebony.
Par Dan Slott au scénario et puis Olivier Coipel au dessin avec un ancrage par pas mal de gens dont Gros Badger, Coipel, Livesey, Olazaba et Morales. Voilà, comme ça on les aura nommés. Au fait, déjà on commence par une confrontation entre le Amazing Spider-Man, on va l'appeler comme ça, et puis le Superior Spider-Man. Quant à qui devrait être leader en fait de toute cette joyeuse armée de Spider-Man. Bon, enfin voilà, il y a déjà ça. On découvre un petit peu ce que font les autres membres de la famille Morlun, un petit peu dispersés à travers différentes réalités. Il y en a même un qui tue au fait un Spider. Une espèce de Spider lycanthrope, enfin voilà, un Spider-Man loup-garou quoi.
Ah bah ça rappelle des souvenirs ça, un Spider-Man loup-garou.
Ouais.
Époque spectaculaire.
Oui, c'est vrai. Oui, enfin, c'était contre les frères Lobos, c'est à ça que tu penses?
Oui, sûrement, oui. On doit vers les 150, un truc comme ça, je crois, de spectaculaire.
Ouais, mais il se transformait pas en loup-garou, Spider-Man.
Il n'y a pas un
Il
moment où il a
affrontait des
été,
loups-garous.
il y a pas un moment où il a été lycanthropié. En
Ah,
tout cas,
je...
c'était le cas sur une cover, ça, j'en suis quasi persuadé. Je pense que l'idée vient de là.
D'accord. Mais enfin bref, y a une scène qui est juste hallucinante, où au fait, Miles Morales et puis une version plus jeune de Peter Parker arrivent dans un monde qui est le monde des années 60. Et c'est juste avec le Daily Bugle vraiment dépeint comme à la vieille époque avec les grosses lettres sur le bâtiment avec Jameson qui appelle Peter pour qu'il vienne prendre des photos etc. Enfin c'est ridicule, c'est kitschissime et il y a l'apparition d'une espèce de Spider-Man baba cool à mon avis qui est le fruit de au fait de au fait une vue de l'esprit du Peter Parker de cette dimension qui a pris un petit peu trop de quelque chose de pas C'est bien un
qu'il
hippie
faut
quoi,
qu'il...
c'est pour plaire à
Oui,
Sam ça.
voilà.
Exactement. Donc c'est bien marrant cette scène. Et puis débarque Solus l'espèce de alors c'est pas le mec qui va finir les jeux vidéo.
Oh putain.
C'est
Oh
ouais.
putain.
Il va enfin, il a peut-être la solution pour exterminer justement tous les Spider-Men puisque c'est comment dire, le grand-père quoi de cette joyeuse famille qui débarque et qui commence à décimer pas mal de Spider-Man et on se termine sur un cliffhanger vraiment sympathique. Je vais pas en révéler beaucoup sur le cliffhanger mais par contre on en apprend aussi pas mal sur au fait les origines de Morlun avec un truc assez intrigant. On retrouve pas mal d'anciens personnages au fait de la mythologie de Spider-Man. Dont certains professeurs, voilà. Bon, je vous laisse deviner lesquels. C'est assez assez marrant. C'est quand même assez complexe. Je me dis, faudra vraiment reprendre tout cet arc depuis le début à la fin pour essayer de comprendre, au fait, les tenants et les aboutissants de tout ça, parce que Dan Slott utilise énormément de continuité, de plein de trucs différents. Pour faire ce Spider-Verse donc voilà donc c'est assez riche au fait en continuité si c'est votre premier event Spider-Man et que vous avez jamais lu de Spider-Man avant
Eh bien,
enfin de
bonne
comics pas
chance.
Spider-Man avant bah j'irais même laisser tomber enfin revenez-y plus tard après avoir lu quand même quelques trucs parce que ça fait appel à tellement de choses que je pense que vous raterez la moitié des vraiment la moitié de l'histoire quoi passera à la trappe
Quoique ça peut simplement être fun de voir des versions différentes de Spider-Man, même si on ne connaît
ouais
pas la
bah
continuité.
il restera que ça, mais c'est vraiment dommage, quoi. Il y a vraiment la moitié de l'histoire là qui. C'est un petit peu d'ailleurs le souci de cet arc. C'est vraiment un arc qui s'adresse à des connaisseurs de la continuité de Spider-Man plus qu'à des. C'est pas Spider-Island, quoi. C'est vraiment
Ben, c'est bien, ouais,
l'anti-Spider-Island.
justement, lui qui faisait des trucs vraiment un peu pour noob, on va dire,
Ouais,
là au
bah totalement, ouais.
moins.
Oui, bah là au moins, oui. C'est pour ça que je continue à le lire. C'est d'ailleurs. D'ailleurs, pour moi, c'est un point positif. Après, c'est sûr que, voilà, faut vraiment connaître l'univers de Spider-Man pour s'en sortir, quoi. Moi, ça me plaît toujours autant, hein, vraiment un bon event, pour Spider-Man par Dan Slott, ce qui mérite le coup d'œil et le détour. Voilà, pour moi, c'est un bail. Je crois que je suis le seul à l'avoir lu cette
Oui,
semaine.
pas eu le temps de le lire, malheureusement.
À signaler aussi on voit ce qui se passe avec pas mal de Spider-Man dans différentes dimensions et bien sûr à chaque fois c'est marqué suivre telle ou telle série telle ou telle tie-in parce qu'il y en a un paquet hein, quand même à suivre donc je les fais pas tous mais ça a l'air intriguant quand même.
Alors c'est marrant parce que pendant que tu faisais ta review, je faisais une petite recherche sur Google Images parce que j'étais persuadé d'avoir cette vision d'une cover où on voyait un espèce de Spider-Man transformé en loup-garou qui avait déchiré son masque et il y avait donc la tête de loup-garou qui sortait et qui criait à la lune. Mais ça doit être une vue de l'esprit parce que, enfin, là
Moi, ça me dit rien.
ça me dit quelque chose, mais ça doit être une variante monstre ou peut-être un truc comme ça.
Peut-être, ouais, c'est peut-être une variante Monster qu'il y avait eu à l'époque où ils en faisaient, je crois que c'était 2008-2009, quelque chose comme ça. Parce que enfin, là, je ne trouve aucun résultat qui correspond à ce visuel que j'avais vu. Et je sais pas, c'est peut-être moi qui l'ai imaginé. J'étais persuadé
de
ce visuel.
Il y avait ça. Il y avait Spider-Man qui se transformait en lézard il y a très très longtemps. Il y avait un Spider-Man qui se transformait en Hulk aussi. On a vu ça. Mais alors un Spider-Man loup-garou, j'en avais jamais vu.
Une tête de loup blanche, mais bon, non, je sais pas. C'est peut-être moi qui l'ai.
Après,
qui
si,
l'ai
il me semble que c'était à la fin d'un. La Marvel Zombie, je crois qu'ils arrivent sur une terre où il y a que des loups-garous et peut-être c'est un truc comme ça.
Enfin, peut-être, ouais. En tout cas, bon. Je sais pas, cette image, je pensais à cette image-là quand je te parlais de Spectacular Spider-Man vers les 150. Effectivement, j'ai vérifié entre temps et c'est absolument pas ça.
C'est faux. C'était avec les frères Lobo. Hein, avec les frères Lobo.
Ce n'était pas ça. Bref, continuons avec toi, Bruno, qui va nous parler d'un annual, un des premiers sortis cette semaine. Il s'agit de Uncanny X-Men Annual numéro 1.
Oui, et c'est écrit par Brian Michael Bendis avec l'arrivée au dessin chez Marvel de Andrea Sorrentino. Et à la couleur, c'est Marcello Maiolo. Donc Andrea Sorrentino, qu'on a pu voir chez DC sur Green Arrow, entre autres, et iVampire, qui réalise un très très beau travail hein, dans la droite lignée de ce qu'il faisait chez DC. C'est tout simplement magnifique, hein, donc voilà. Si vous êtes fan de l'artiste, allez-y, sans problème. Au niveau du pitch, en fait, on va s'intéresser au personnage de Eva Belle, qui est une jeune mutante qui a été recrutée par Cyclope depuis le début d'Uncanny X-Men. Et c'est une mutante qui possède des pouvoirs qui permettent de modifier le temps, c'est-à-dire créer des bulles dans lesquelles elle peut friser le temps. Et un jour, lors d'un entraînement à Tabula Rasa, il y a eu un problème. Elle a disparu complètement et elle est réapparue quelques temps après en ayant vieilli, en ayant vécu sans doute une expérience assez traumatisante dont elle ne voulait pas parler. Et en fait, cet annual va revenir et nous expliquer ce qui s'est vraiment passé.
C'est-à-dire que Bendis a eu le temps d'y réfléchir entre-temps. Il s'est dit « Oh, c'est une super idée », mais il savait pas ce qu'il allait faire, comme avec Nova.
Exactement. Et donc,
c'est gratuit, hein, je sais, mais...
Donc ça commence avec une Eva Belle qui se réveille dans une zone complètement de New York complètement détruite par des vaisseaux martiens, donc toujours ces fameux vaisseaux martiens qu'on a pu voir dans plusieurs épisodes de Marvel ces quelques dernières années, avec un personnage, c'est Killraven, qui se bat contre les martiens et on sent que la Terre est en danger. Très rapidement, elle fait un nouveau saut dans le temps, où là c'est un peu Retour vers le futur 3 puisqu'elle se retrouve à l'époque du western. Avec justement elle rencontre le Rawhide Kid qui l'aide un petit peu à essayer de retrouver son chemin à travers le temps.
Et peux-tu nous présenter Rawhide Kid?
Rawhide Kid, qui est une sorte de
les questions d'enfoiré.
Ouais, c'est une sorte de Billy the Kid qui a rencontré les Avengers et qui explique qu'il avait fait équipe avec Hawkeye pendant longtemps et donc il comprend qu'on puisse venir à travers le temps
voir les West Coast Avengers. Ouais,
donc Bendis qui s'amuse un petit peu avec la continuité et ça se termine avec c'est la grosse partie du comics dans un voyage dans le futur en 2099 où en fait Eva va rencontrer la nouvelle représentante de la remplaçante en fait de Doctor Strange qui n'est autre que Ilyana Rasputin. Et là, en fait, il va se passer pas mal de petites choses qui vont expliquer justement les gros changements qu'a vécu Eva Belle. C'est assez intéressant. Il y a plein de petites pistes par rapport à justement des éléments du passé qui ont été modifiés et qu'il va falloir essayer de corriger. Tout ça rentre bien, je trouve, en adéquation avec tout le bordel qui a été créé sur les timelines. Et ils y font d'ailleurs référence à plusieurs reprises. Toutes ces choses qui vont nous amener sur Secret Wars d'ici quelques temps. Donc un bon numéro franchement qui j'ai trouvé assez magnifique et avec un personnage Eva Belle qui est assez intéressant dans Uncanny X-Men et qui là est développé donc pour moi c'est un bon gros bail.
Un personnage en tout cas pour qui sonne le glas.
Ah oui c'est ça. Oh. La cloche. Bravo.
Ah je fais ce que je peux. Le glas en tout cas va peut-être sonner pour la personne qui est l'héroïne de la série suivante. Il s'agit de Thor numéro 3, toujours par Jason Aaron, avec Russell Dauterman au dessin. On rappelle que cette déesse du tonnerre se retrouvait face à Malekith et sa légion de géants de glace, tout ça avec son marteau Mjolnir coincé derrière une porte indestructible et elle de l'autre côté de cette porte, évidemment. Donc d'un côté, elle a son Mjolnir qui ne vient pas. En face, elle a Malekith et ses légions de glace. Et elle se dit, bientôt, je vais me retransformer en humaine, puisque, rappelons le principe, hein, en 60 secondes, elle reprend forme humaine. Apparemment, les 60 secondes, soit elles se passent méga vite, soit les 60 secondes font pas 60 secondes. Hein. Elles en font plutôt 12 millions, je pense. Parce qu'il faut du temps avant qu'elle commence que son costume disparaisse, puisque c'est un costume. Donc, eh bien non, point de réponse à qui se cache sous ce casque, mais la réponse viendra peut-être du prochain épisode, puisque la dernière page annonce une bataille assez épique entre deux dieux, je vous laisserai deviner lesquels, évidemment. Un check-it, voilà.
Et est-ce que c'est possible finalement que, tu sais, quand elle perd ses pouvoirs, au fait c'est un homme ?
Je ne pense pas.
D'accord.
C'est possible, mais je ne pense pas. Ce serait étrange. Ce serait étrange parce que, du coup, je pense que ce côté, oui, condition de la femme, on met pas assez d'héroïne, machin, cette espèce de sérénade casse-couille qu'on nous balance en ce moment tout le temps en pleine gueule, il se foutrait vraiment de la gueule des féministes.
Oh bah, pas tant que ça, parce que finalement, voilà, ce serait, vous voyez, on peut avoir un personnage masculin qui devient un héros féminin, enfin, ce serait justement,
ouais, bon.
Je sais pas, mais moi, je trouverais ça,
Le côté T, je pense pas que les gens soient prêts.
Ouais, après, enfin, je veux dire, il y a d'autres façons de parler de personnages transgenres ou de...
Oui, voilà, le transgenre, les T, quoi.
Mais on est en hiver.
Mais par contre, ça voudrait peut-être dire qu'elle a des pouvoirs de magie, alors. C'est peut-être une magicienne asgardienne ou un truc comme ça. Donc, si elle peut changer son apparence comme ça.
Enfin, moi, je vois même pas ça comme un trans, hein, perso. Enfin, je sais pas. C'est un truc un peu méta, mais en même temps.
Non, mais c'est normal. Moi, parce que toi, quand tu joues à des jeux de rôle, tu te crées toujours un personnage féminin, donc c'est normal.
Hein
dans ce coup, si tu joues un jeu de rôle sur PC, genre Skyrim ou compagnie, tu vas te créer un personnage féminin, c'est normal.
Non, mais je sais pas où t'as vu ça, mais par contre...
sur ton PC
Non, mais il y a bien des gens, il y a bien des personnages qui pourraient... qui se transforment en, je sais pas, en animaux.
Bah, donc, dans Ratman & Demi, ouais.
On a eu le cas Loki, qui avait fait déjà un peu scandale. Oui, Ratman & Demi, mais c'est la culture japonaise, où c'est quand même différent. Il y avait le personnage fut un temps de... Ah, comment il s'appelait ? Turbo, qui était dans les New Warriors, mais c'était un couple, et il avait soit le mari, soit la femme qui prenait le costume, ce qui fait que de temps en temps Turbo était homme, de temps en temps Turbo était femme, mais c'était deux personnes différentes. Je crois qu'il y a eu d'autres cas,
dans la série Misfits, il y avait le personnage, à un moment il changeait de sexe comme ça.
Bah, et il y avait un gars dans les Gardiens de la Galaxie initiaux, là... quelqu'un, enfin justement,
oui,
c'était pas un gars,
oui,
c'était
oui,
pas une nana,
parlé,
c'était,
oui,
c'était,
c'est,
les
c'était,
deux sexes. Là.
C'était une entité cosmique, oui.
Ouais.
Ça pourrait être malin, mais honnêtement, je n'y crois pas.
Moi, j'y crois pas non plus.
D'accord, non, mais c'est juste comme ça, c'est une idée qui vient de me venir.
Pourquoi pas, ça peut lancer un débat. Hein. Si vous voyez d'autres personnages d'ailleurs qui sont comme ça, mais vraiment dans le milieu du comics plutôt, n'hésitez pas, parce que là comme ça nous vient pas, mais il doit y en avoir d'autres encore. En tout cas, pour une review express, du coup, elle a débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, check it, hein, seulement pour ce Thor numéro 3, pour moi. Les dessins sont toujours aussi sublimes, en revanche. Continuons avec toi, Bruno. Avengers World numéro 16.
Oui, c'est
un numéro dans lequel il se passe des choses.
Oui, un numéro important également pour la continuité. Donc, c'est écrit par Nick Spencer et Frank Barbier, avec au dessin Marco Cecchetto avec Ramon Rosanas. Donc, encore une fois, une partie graphique superbe. Marco Cecchetto... Il a rien à prouver, c'est magnifique. Au niveau de l'histoire, on est complètement cohérent avec ce qui se passe dans Axis, puisque ça concerne justement l'attaque de la sorcière rouge en Latverie. Sachant que là, on a quand même beaucoup plus de détails sur ce qui se passe et le combat un petit peu juste avant qu'elle s'attaque à Doom. Puisque justement, on a Valeria qui avait rassemblé toute une équipe d'anti-héros et d'anciens personnages un petit peu de tout l'univers Marvel, comme Elsa Bloodstone, Stingray, Valkyrie, 3D Man ou US Agent, pour l'aider dans sa tâche, et tout cela dans un but d'essayer de manipuler la Scarlet Witch pour donner des pouvoirs à Doom, et qui lui permettrait de réparer une des erreurs qui, depuis son inversion, il est rongé par un acte qu'il a commis envers un autre membre éminent de l'univers Marvel, et donc il essaye de réparer ça. Donc c'est plutôt bien foutu, c'est assez malin, avec effectivement des répercussions qui se ressentiront dans la prochaine série Ant-Man d'ici quelques temps. Donc un numéro à lire vraiment pour découvrir comment ça s'est passé et si ça vous plaît ou non cette façon de résoudre ce problème. Moi j'ai trouvé ça.
Ce dont on parlait un petit peu à demi-mot hier soir dans le Weekly News.
Ouais, tout à fait. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt assez malin la façon dont c'est fait. Donc pour moi c'est un gros bail et artistiquement c'est toujours aussi bien. Sachant qu'il va y avoir une pause de 2 mois là sur Avengers World, ça reviendra que fin janvier je crois. Ouais, ce sera dans 2 mois avec le début de Before Time Runs Out qui reprendra je crois donc fin janvier ou début février. Qui va expliquer.
Je me rappelais qu'il y avait une pause, mais je pensais pas qu'elle était de 2 mois.
Bah c'est ce qui est marqué à la fin. Donc bon, à voir.
Bah si c'est fin janvier, ça fait pas 2 mois. Enfin, ça fait
un mois et demi.
Ouais, un mois et demi, ouais.
Mais où en fait ils vont nous expliquer comment on arrive à Time Runs Out. Donc bon, très bonne série et pour moi un bon bail cette Avengers World.
On continue avec Spider-Man and the X-Men numéro 1, nouvelle série de la semaine, nouvelle série chez Marvel, qui était assez attendue quand même, puisqu'elle remplace la série Wolverine and the X-Men, hein, Wolverine étant juste mort.
Donc
bon, c'est un peu compliqué.
C'est compliqué.
Voilà. Ça a surtout le mérite d'être la première série d'un nouveau scénariste, Elliot Kalan. Qui va faire ses armes là-dessus, avec Marco Faia au dessin, ou Faila, je ne sais pas du tout comment le prononcer.
Non, moi non plus.
Les dessins sont... Bon, on va commencer par ça. Les dessins sont assez corrects, assez ambiance un peu rigolote. J'irai pas jusqu'à dire cartoony, mais voilà, ça fait un peu comique pour enfants.
Ouais, clairement, clairement. Avec des mimiques un peu qui font un peu exagérer. Mais oui, la partie graphique est sympa.
Et ça correspond avec l'esprit de la série. Hein.
Ouais, clairement.
Donc le principe, Spider-Man va devenir un prof à la Jean Grey School, un prof d'éthique. Et il va être aussi le conseiller... je sais plus quoi. Il y a un nom particulier, mais qui ne me revient pas.
Il va s'occuper d'une classe un peu avec les certains mutants un petit peu rebelles.
C'est pas conseiller d'orientation que je cherchais, mais c'est quelque chose comme ça.
Bah, il va leur apprendre ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Donc,
un tuteur.
Ouais, enfin, non seulement il va être prof d'éthique pour cette classe, mais il va aussi avoir un poste normalement. Mais je retrouve pas le terme, donc c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. Ça n'a pas vraiment d'importance pour cet épisode, puisque là, on va surtout le voir en professeur. En professeur qui n'a pas vraiment de chance, hein. C'est Spider-Man, c'est la chance à la Spider-Man, c'est-à-dire que partout où il va, il y a forcément un ennemi. À peine arrivé sur la Jean Grey School, où déjà il comprend que personne ne l'aime, hein. Storm lui en veut à mort parce qu'elle veut absolument pas de lui, elle veut pas qu'un non-mutant vienne enseigner aux mutants des choses, ce qui est, je trouve, assez con, honnêtement, comme réaction. J'ai pas vraiment compris ce côté non mais on veut pas que les non-mutants viennent entraîner des mutants.
Ouais,
alors que ce sont les premiers à vouloir dire on veut que les humains et les mutants fassent la paix.
C'est un peu forcé et au niveau de la continuité aussi, on a du mal à placer ça entre Spider-Verse et Axis, ça a l'air d'être complètement déconnecté. Quoi.
Ouais, je pense qu'il faut voir que c'est après, quoi, et encore. Donc à peine arrivé, il va affronter Unus l'intouchable.
Unus. Il fait marrer.
Ouais, déjà, non mais déjà quoi, le perso quoi.
Le mec on peut pas le toucher.
Et puis emmenant ses élèves en classe de découverte dans un musée, il va se retrouver face à des ennemis bien connus, hein, comme Stégron. Le retour de Stégron et surtout d'un ennemi bien connu des X-Men, dont je tairai le nom puisqu'il n'est pas montré sur la cover. Peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, un qui sur la cover et que je n'ai pas vu dans le comic, c'est Doop.
Oui, malheureusement. Ça aurait été bien d'avoir Doop.
Je sais pas si ça aurait été bien de l'avoir.
Moi aussi, moi j'aime bien.
Est-ce qu'il y avait besoin de plus d'humour?
Non, pas spécialement, parce que c'est peut-être un peu forcé d'ailleurs, moi j'ai trouvé
Moi,
le
ça me
côté lourd.
rappelle le pitch que vous en faites, ça me rappelle le crossover avec Avengers Academy où bah, c'était le même scénario hein, en fait. Peter Parker était prof de l'Avengers Academy,
Mais
voilà.
c'est exactement ça qui a
Ouais.
dû inspirer cette série. Cependant, Wolverine avait un motif sur le fait d'amener Spider-Man à l'école, pas simplement pour son côté grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais il avait aussi une mission qu'il a confiée à Spider-Man, que Spider-Man essaye de cacher à tout le monde. Je ne comprends pas comment personne est encore au courant. Parce que juste, enfin, Spider-Man, à ma connaissance, n'est pas capable d'empêcher les télépathes de lire son esprit. Le mec passe son temps à dire ça tout fort, à haute voix, parce que Spider-Man parle tout seul, à voix haute, surtout quand il y a des bamfs dans le coin. Bon, alors, si personne ne le sait, voilà, puis en plus Spider-Man, quand il pose des questions, il y va toujours avec ses gros sabots. Si personne n'a compris, franchement, là je dis, va falloir m'expliquer.
Bah, c'est clairement un comics tout public, hein. Moi, quand je l'ai lu,
Oui,
je me suis
oui.
dit, c'est vraiment le truc que tu peux faire lire bah, un jeune de 12-13 ans. Il va se marrer, c'est fun. C'est effectivement un Spider-Man plus proche
Non, à
de...
12-13 ans, il va dire, oh, c'est de la merde, je retourne jouer à
Je vais jouer à
GTA.
GTA. C'est un Spider-Man dans la série animée un peu, qui est actuellement dans Ultimate Spider-Man, je trouve.
Je pense que c'est un tout petit peu au-dessus, moi,
Peut-être.
en termes
Oui,
d'humour, en
peut-être,
termes
peut-être.
de thèmes abordés, c'est un tout petit peu au-dessus.
Vas-y. Bruno, la l'ours blaireau.
Mais ouais, effectivement, on est proche des comment ça s'appelle Marvel Adventures un peu dans l'esprit quoi.
D'accord.
Cette ambiance de série pour enfants. Personne voit la gamme Adventures.
Si, 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 oui, tout à fait, ouais. Donc ça
Moi,
ressemble un peu à ça, ouais.
ça me
Après,
fait vraiment penser à ça quoi.
et graphiquement aussi, ça a ce côté cartoony, j'ai trouvé quand même aussi, qui est assez réussi, qui va bien avec le titre. Et qui en fait un titre assez plaisant à lire, mais j'en attendais peut-être quelque chose d'un peu plus un peu plus profond quoi, mais bon, c'est rigolo, c'est fun.
Moi, j'attendais rien, honnêtement. J'ai pas été déçu, hein, au contraire, je m'étais plutôt agréablement surpris. J'ai paru peut-être un peu négatif dans ma critique, mais
Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire.
c'est un titre que j'ai trouvé plaisant à lire, quoi. Je me suis pas ennuyé. Bon, j'ai pas rigolé aux éclats non plus, hein. Je vais pas vous mentir en disant, oh, c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais lu. Non, du tout. Mais je trouve que pour un premier essai, pour un scénariste, enfin, le mec s'en sort relativement bien.
Oui,
Il a
ça va.
plus ou moins bien compris Spider-Man. Les X-Men un peu moins, j'ai l'impression, mais enfin en tout
Oui.
cas les X-Men de la Jean Grey School. Ça aurait été, je veux dire, ces réactions-là auraient été faites par des membres de l'équipe de Cyclope. Ça m'aurait pas dérangé, mais par les membres de l'équipe Jean Grey, ça me gêne un peu. Sorti de là, c'est vraiment le gros point négatif pour moi de ce numéro. C'est vraiment les X-Men sont très mal caractérisés. Voilà, de là, enfin quand tu vois un mec comme Bobby Drake qui dit à Spider-Man, ouais, non, mais on est juste potes, mais voilà, tout juste. Ça me gêne un peu, quoi.
Moi, relativement moyen au final, c'était pas mal, mais sans plus. Pour moi, ce sera juste un check-it.
Ouais, moi, un check-it plus. Ouais, si vous savez pas trop quoi acheter cette semaine, bah, tentez. Après, si vous avez déjà votre budget qui est complet, bah, ça peut attendre un peu, quoi. Et mention spéciale au Beast très moche. Quand même. Que honnêtement, je n'avais pas reconnu sur la première
Moi non
page. Hein.
plus.
Enfin, la première page où il apparaît, j'avais pas reconnu
Moi
Beast. Hein.
non plus.
Je sais pas ce que c'est, il a des pattes de grenouille, mais c'est pas des pattes de Beast, quoi. Bref, petit check-it plus pour moi et check-it pour toi, Bruno.
Ouais, juste check it.
Continuons avec Guardians of the Galaxy Annual numéro 1, Benny.
Ouais, donc Brian Michael Bendis est au scénario et Frank Cho est au dessin. Donc un épisode, bah clairement bonus, hein. On peut ne pas le lire si on suit la série Guardians puisque c'est pas un épisode super utile. Mais ça a le mérite d'être une parenthèse sympathique. Donc les gardiens bah, sont dans l'espace, hein, ils ont comment dire Carol Danvers qui a rejoint leur groupe est en train de faire un petit débrief, enfin voilà. Et bah, ils sont à tech, enfin il y a une l'apparition d'un seul coup d'un hélicarrier du Shield dans l'espace à des milliers d'années-lumière donc de la Terre. Ils se demandent ce que ça vient faire là quoi ce hélicarrier. Et donc arrive Nick Fury et puis d'autres personnages comme Sitwell et puis Dum Dum Diogan pour ne citer que cela, hein, donc des personnages assez anciens. Il s'agit du Nick Fury, donc bah de enfin l'ancien Nick Fury quoi. Et on se demande vraiment bah déjà comment se fait-ce, hein, surtout après Original Sin. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Là-dessus débarquent aussi des Skrulls. Alors en plus il y a tout plein de gags, tout plein de blagues là-dessus parce que bon Nick Fury prend les gardiens pour des Skrulls. Alors Rocket Raccoon dit à Nick Fury mais pourquoi on aurait pris des apparences aussi moisies si on était vraiment des Skrulls. Et puis bien sûr les gardiens pensent que Nick Fury et toute sa bande sont peut-être aussi des Skrulls. D'ailleurs Rocket Raccoon traite directement Nick Fury de Skrull. Donc voilà, donc c'est assez drôle quoi, c'est un épisode assez assez comique et assez orienté action. Je laisse découvrir au lecteur le mystère hein, derrière tout
ouais.
ça.
Oui, ça joue beaucoup effectivement sur l'interrogation générale des gardiens qui ont l'impression de rien comprendre à ce qui se passe, d'être au milieu d'une scène complètement extravagante avec des personnages assez différent de ceux qu'ils connaissent actuellement. C'est assez fun. C'est sympa d'avoir un numéro dessiné par Frank Cho parce que il a un style quand même assez cool et bon là il tient bien les gardiens. Il y a pas mal d'humour aussi. Il y a des bons petits dialogues. Toutes les scènes qui concernent justement Captain Marvel et je trouve que c'était assez bien écrit et assez touchant. Une dernière page que j'ai trouvé assez mignonne. Et il y a un truc qui plaira à Steve, c'est qu'il y a un gros clin d'œil à Star Trek à un moment. Donc, faudra qu'il aille jeter un œil, il verra tout de suite en parcourant les pages. Et non, c'est assez fun. Après voilà, c'est complètement un annual anecdotique, c'est-à-dire ça va pas apporter des informations hyper importantes pour la continuité Marvel, mais ça va raconter une petite histoire auto-contenue et plutôt bien dessinée. Donc c'est pas mal.
Mais enfin bon. Ouais bah c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça commence à manquer des histoires, juste des bonnes histoires quoi. Voilà, c'est une histoire qu'on aurait pu lire il y a quelques années, une histoire qui comme tu dis auto-contenue et qui a juste le mérite d'être sympa ouais. quoi. Voilà.
À noter qu'il y a eu
Il y a eu
plusieurs mois de retard hein, pour ce numéro, ce qui explique aussi un petit peu peut-être le fait qu'il se passe avec des gardiens qui sont peut-être à un moment il y a quelques mois, en fait, ils étaient un peu dans cette configuration d'équipe, alors que ça a changé un petit peu depuis. Mais
tout à fait. Ouais.
Donc voilà. Donc pour moi, c'est pas mal. C'est un bon check-it sympa.
Bah moi, je vais même carrément mettre un bail moins quoi. C'est un petit bail. Voilà. C'est très bien ce numéro.
Ok, alors on continue avec toi Bruno qui nous parle de Wolverine. Wolverine qui, toujours mort, continue à sortir des comics. Death of Wolverine Logan Legacy numéro 6.
Oui, et c'est le meilleur de la série pour le moment ce numéro. C'était vraiment excellent. C'est écrit par James Tynion, le quatrième.
James Tynion.
James Tynion 4. Et avec au dessin un artiste que j'aime beaucoup et qui se fait assez rare, mais Andy Clark. Que je trouve vraiment très très bon. Voilà, on l'a vu chez DC récemment sur pas mal de numéros de Batman et bah là il fait du beau boulot sur ce numéro qui est centré sur le personnage de Mystique et qui fait appel à pas mal de continuité puisqu'en fait Mystique est en pleine vendetta contre le Shield après avoir reçu un paquet assez mystérieux qui a attisé sa curiosité. Et en fait, tout ça, ça va être l'occasion d'avoir pas mal de flashbacks qui vont nous parler un peu plus en détail de sa relation avec le personnage de Destiny, avec laquelle elle a pas mal bourlingué pendant plusieurs années, voire qu'elle a eu une relation, on va dire, amante avec aussi, et qui était un personnage qui était capable de voir le futur. Donc le pitch, c'est qu'en fait, Destiny, depuis toujours, enfin, depuis le moment où Mystique lui avait demandé de voir le futur et d'imaginer un... comment on pouvait se débarrasser de Wolverine. En fait, elle savait comment Wolverine allait mourir et à quelle époque, mais elle avait décidé de ne pas le dire à Mystique parce qu'elle avait peur que ça l'emmène sur une mauvaise voie.
L'autre variante cover perdue du journal de Destiny.
C'est ça.
Dont on parlait déjà dans le dernier Comic City.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et c'est vraiment bien écrit, c'est très rythmé, c'est très joli, il y a pas mal d'action. Raven est vraiment, vraiment classe, quoi. Elle a 2-3 scènes d'action hyper cool. Et c'est assez trash, assez gore par moment.
Et avec une fin qui amène directement, on a l'impression, sur la série The Wolverines, hein, puisque Mystique va être au centre de la série hebdomadaire de Charles Soule. Et là, elle a une mission qui lui a été donnée par Destiny, justement, et qui concerne le futur peut-être de Wolverine. Donc, très bon numéro, pour moi, c'est un bail.
Continuons et terminions et terminuons.
Oui, c'est très mignon.
Je sais pas ce que c'est que cette conjugaison dégueu. Et terminons notre partie Marvel avec toi, Bruno, qui nous fait une petite review express du Avengers numéro 39.
Oui, toujours écrit par Hickman avec Deo.
Je me permets juste de rajouter ce que je voulais dire à la fin. Du coup, je suis parti tout de suite et puis avec ma conjugaison foireuse, j'ai oublié. Mystique est un des autres personnages d'ailleurs qui peut à loisir devenir homme ou femme, quoi, même si elle est femme au départ.
Exactement.
Dont on cherchait tout à l'heure. C'est vrai que c'est l'exemple même, quoi. Mais c'est un métamorphe. Alors, est-ce que c'est bien le même? Est-ce que ça rentre dans les paramètres que l'on qu'on évoquait tout à l'heure?
Ouais. Pas comme les Skrulls aussi, hein. Mais pardon.
Comme les Skrulls, effectivement. Bref, excuse-moi.
Donc, Jonathan Hickman, Mike Deodato au dessin pour You Can't Win Part 1, avec toujours ce Time's Run Out. On est dans le futur avec les Avengers qui sont menés par Captain America vieux, qui essaye de mettre la main sur les Illuminati. C'est la partie de cache-cache entre Beast, Black Panther et compagnie, et justement Captain America. Là, ça va être la confrontation. C'est plutôt bien foutu, c'est très joli, hein, les dessins de Deodato. Bonne scène d'action avec l'arrivée d'Iron Patriot, pas d'Iron Patriot, mais de War Machine, qui est bien mis à contribution.
Super patoche.
Et voilà, c'est beaucoup de baston. Finalement, ça avance pas beaucoup, mais ça donne droit à quelques scènes plutôt cool, avec aussi une intervention de Captain Marvel et un combat avec Hulk que j'ai trouvé assez classe. Voilà, c'est cool, surtout la dernière page en fait où on voit où ils veulent aller. Et là, tu te dis, ah, vivement le prochain numéro quand même. Celui-là est clairement un petit peu en dessous des précédents, donc ça c'est peut-être un peu trop décompressé là, l'arc Time's Run Out. Il y a deux numéros par mois en plus, donc ça pourrait aller plus vite, et au final ça a un petit peu ralenti, mais bon, ça
on savait que c'était dans 8 mois, c'était dans 8 mois au départ, avec deux numéros par mois ça fait quand même 16 numéros sur ça, quoi. C'est
ouais,
un peu long, hein.
Mais là on est 5 mois dans le futur, quoi.
Moi j'ai lâché l'affaire.
Et voilà, c'est cool, mais ça fera vraiment une très belle pièce montée à la fin, qui nous amènera sur Secret Wars. Donc pour moi, c'est quand même un bail.
Passons à notre partie TPB, les TPB de la semaine chez Marvel. 3 TPB à se mettre sous là-dedans. J'ai du mal ce soir, je sais pas ce qui m'arrive là. Le Marvel Masterworks Mighty Thor volume 13 sort cette semaine au prix de $70 et va reprendre les Thor numéro 217 à 228 ainsi que le Marvel Treasury Edition numéro 3. Ce sont des scripts de Jerry Conway notamment et des dessins de John Buscema. Vieille époque de Thor, hein, dans cette collection Marvel Masterworks qui réimprime des versions de très très haute qualité.
Ouais, Conway qui avait quand même été embauché par Marvel à l'âge de 16 ans.
Oui. Continuons avec Savage. Oh, pardon, excuse-moi, je t'en prie.
Non, j'allais juste te dire, c'était une autre époque.
Quelqu'un d'autre qui vient d'une autre époque, c'est Alan Davis qui sort le premier TP de Savage Hulk, série qui n'est pas encore débarquée en français à ma connaissance, je ne sais pas si elle arrivera. Ça contient en tout cas les 4 épisodes de cette série. Je ne sais pas s'il y aura d'ailleurs d'autres numéros de Savage Hulk, je ne sais pas si cette série continue.
Si, oui, il y a eu un petit arc en deux parties avec Gabriel Hardman et Corinna Bechko, et je crois que ça va continuer après avec d'autres artistes.
Alors, c'est au prix de $18 et vous aurez aussi le X-Men 66, le X-Men, le dernier numéro avant que la série parte en hiatus et revienne avec son fameux Giant Size X-Men 1, donc un numéro qui date. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre entre les anciens X-Men et Hulk, évidemment. Enfin, pour Marvel, cette semaine en TP, Wolverine, qui, définitivement, même mort, continue de vendre un maximum. Wolverine Epic Collection Madripoor Nights sort au prix de $35, hein, ces fameuses Epic Collection qui réimpriment à très très bas prix des épisodes et en couleur. Vous aurez à l'intérieur les Wolverine 1 à 16 de la série régulière, la première série régulière de 1988, ainsi que du matériel provenant de Marvel Comics Presents 1 à 10, donc les chapitres concernant l'histoire de Wolverine qu'il y avait dans Marvel Comics Presents. Je rappelle que c'était une série d'anthologie où il y avait 4 histoires à l'intérieur. Vous aurez aussi le Marvel Age Annual numéro 4. Voilà pour le programme de ce Wolverine Epic Collection. Du très très bon, hein, si vous connaissez pas Chris Claremont à l'époque, John Buscema, Wolverine qui n'était pas Wolverine mais qui était seulement Patch, qui vivait à Madripoor, accompagné de Tiger notamment.
Tiger, Uppercut.
Avec les fameux Rough House et Bloodsport.
Ouais, je m'en rappelle. Avec le gros barbu et puis
et le vampire.
Et le vampire, ouais.
Ouais, le tout blanc limite gothique. Il y a aussi du Jessica Drew à l'intérieur. Enfin voilà, il y a pas mal de monde. Il y a cet arc sur la Gehenna Stone. Bref, tout ça ne me rajeunit pas. Honnêtement, j'ai lu ça il y a tellement longtemps, ça me rajeunit pas du tout. Mais si vous les avez jamais lus, franchement, à lire quoi. Enfin, pour $35, c'est vraiment pas cher payé. C'est tout pour Marvel, on va passer maintenant à notre partie indé, et on va démarrer avec toi, Benny, qui va nous parler de ta passion, la misogynie, avec Beach Planet.
Ouais, donc...
Je te sens tellement joué, c'est du Kelly Sue de Koenig en plus.
Justement, je suis allé voir si elle allait me surprendre, je ne demandais que ça. Allez, surprends-moi, Kelly Sue de Koenig, fais un bon truc. Donc elle est au scénario. Pour le moment, j'ai rien lu de bon écrit par cet auteur, donc je ne demandais que ça. Donc elle est au scénario avec des dessins, une colorisation de juste les dessins de Valentine Delandro.
Qui à ma connaissance, enfin en tout cas je l'ai peut-être raté, mais je l'avais pas revu dessiner depuis son run avec Peter David sur X Factor.
Peut-être
moi qui me trompe, hein, mais enfin je j'ai pas souvenir de l'avoir vu ailleurs.
Et Chris Peter qui est à la colorisation. Voilà. Le pitch. Alors le pitch, on est dans une espèce de monde futuriste et on nous expose un petit peu une sorte de prison de femmes dans l'espace. Et on suit au fait l'incarcération plus particulièrement d'une femme qui visiblement est incarcérée à tort. En fait, elle est parmi d'autres femmes qui sont elles incarcérées pour diverses choses. Et elle serait là à tort. Donc on comprend pas trop cette histoire. Et à côté de ça, il y a son mari qui essaye de la faire sortir de prison. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Et au fait, c'est pas exactement ça. On s'en rend compte à la fin de l'histoire. Il y a un petit twist là-dessus.
Ah, tu en as peut-être trop dit, je trouve.
Franchement, pour deviner ce qui se passe réellement, faut quand même chercher. J'ai pas détesté. Maintenant, il y a quand même un truc assez drôle, c'est que cette série, elle aurait été écrite par un homme. Je pense qu'on aurait gueulé en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» etc. C'est scandaleux. Et ça m'a fait sourire finalement de lire un truc comme ça écrit par une femme, justement, qui met tellement le doigt au fait sur... Elle brandit tellement...
Attention où tu vas mettre le doigt, Benny. Attention.
Elle brandit tellement le côté « Ouais, on souffre tous de la misogynie. Voyez ce qu'on est capable de faire aussi, etc. » Je suis désolé, mais il y a vraiment des gros 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 clichés quand même, quoi. C'est pas mauvais. Franchement, ça doit être effectivement ce que j'ai lu de mieux d'elle pour le moment, parce que ce que j'ai lu d'elle sur Captain Marvel par exemple, c'était catastrophique, j'ai trouvé. Il y a quand même des grosses ficelles. Encore une fois. Je vais te laisser la parole, je vais te laisser donner ton opinion là-dessus. Est-ce que t'as été enchanté par cette histoire?
Ah, tu ne l'as pas lu, Bruno, du coup, je pensais.
Pourtant, avec Orange is the New Black que je regarde en ce moment, c'est pile l'ambiance, quoi. Mais...
Oui, alors moi, justement, j'ai commencé à regarder le premier épisode de Orange is the New Black. Je n'ai vu que le premier épisode, donc j'ai un difficile point de comparaison. Ça n'a quand même rien à voir. Hein. On est quand même dans une société futuriste, donc déjà, de rapprochement, c'est limite. Le côté, on va sur une autre planète, on envoie les gens qui ont péché, qui ont fauté sur une autre planète. Bon, idée, plus ou moins classiques, jusque-là, ça va. Rien de novateur. Le côté prison de femmes, etc. Bon, rien de novateur non plus. C'est la façon dont c'est raconté, et c'est surtout, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, ça commence sur une histoire de prison, etc. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression de lire un épisode de la quatrième dimension. C'était vraiment un épisode de Twilight Zone, un épisode de toutes ces séries un petit peu fantastiques, où il y a une espèce de gros twist à la fin et de morale un petit peu étrange. Ouais, et ça m'a tellement surpris, je m'attendais pas à ça. Je fais waouh, j'ai trouvé ça super malin.
Voilà. Oui, d'accord, mais
je raisonne juste en termes d'histoire. Hein.
Je suis d'accord avec toi sur le côté Twilight Zone. Et ça aurait été très bon si c'était un one shot, mais le problème c'est que comment tu fais pour faire une suite à ça maintenant ?
Il y a une suite à ça. Enfin, tu as peut-être passé très rapidement sur la dernière case, mais cette dernière case en dit long justement. Cette dernière bulle vachement long sur ce que va devenir sûrement la série. Alors, pareil, on peut se faire une fausse idée. Mais ça a l'air de partir dans une direction tellement différente. Je pense que c'était vraiment un épisode uniquement introductif qui nous présente la situation et on va partir sur vraiment autre chose ensuite.
Ouais. Oui, je revois la dernière case, effectivement. Bon, c'est assez classique aussi comme thème, hein. Tu parlais des thèmes classiques qu'on retrouvait là-dedans.
Oui.
Bon. À voir. Moi, ça m'a pas emballé au point que j'aurais envie absolument de lire la suite.
Bah, j'ai pas envie absolument de lire la suite. Je vais aller voir en tout cas.
C'est pas mal. Reste que ce serait beaucoup mieux, je pense, sans justement cette espèce de
de propagande féministe qui m'a cassé les couilles. Je veux dire clairement, c'est les pages post-comiques qui parle avec cette espèce d'essayiste qui fait tout un pamphlet sur la condition de la femme. Mais putain, qu'est-ce que ça m'a gonflé, quoi! Mais ça m'a gonflé. Je sais pas. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai rien compris. Mais pour moi, c'est d'un autre temps. Mais clairement, c'est d'un autre temps, quoi.
Bah, non, mais c'est-à-dire que là, limite, on a l'impression que elles sont au moins aussi traquées que les mutants dans l'univers Marvel. On a l'impression que c'est vraiment, je pense pas qu'on en soit à ce point-là non plus, quoi. Je veux dire, faut pas déconner, même dans le milieu des comics, hein. Je pense que Kelly Sue DeConnick, elle est pas non plus persécutée tous les jours quand elle va aller bosser et faire ses scénarios. Enfin, j'espère pas pour elle, quoi. Mais
de toute façon, on travaille de chez elle.
Oui, non, mais voilà, je pense quand même que chez Marvel, c'est pas des animaux. Quand ils voient une femme. On a l'impression vraiment quand on dit tout ça que c'est épouvantable d'être une femme dans notre société actuelle et surtout dans ce milieu-là je veux bien croire que c'est quelquefois qu'on croise des machos, mais de toute façon on en croise dans tous les milieux, hein, cela dit en passant.
Mais de même qu'on croise des femmes qui sont pour le matriarcat, des femmes qui sont oui, il y a encore des problèmes, on le voit bien dès qu'il y a une polémique sur Internet avec... ça reste Internet. Enfin, tout est monté en épingle en ce moment, mais tout, hein. Tout. C'est-à-dire que même je crois qu'un pet de mouche pourrait être monté en épingle et faire un scandale sur Internet, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de loupe déformante, au fait.
Il y a des choses qui m'ont vraiment... Alors, je sais que c'est méta, c'est en dehors du comic, mais à la rigueur, c'est publié, ça doit être critiqué aussi. Cet article m'a vraiment saoulé, quoi. Les exemples que l'essayiste prend, qui s'appelle d'ailleurs Daniel Anderson, hein, on va la citer, m'ont désespéré. Elle gueule en disant oui, les femmes de les photos de femmes qui allaitent sur Facebook sont bannies, etc. Alors que on laisse des pages qui encensent des gens qui sont des meurtriers de masse. Mais putain, mais quel rapport, quoi? Quel est le rapport entre les deux? Je veux dire, tu peux pas mettre les deux points de comparaison en disant qu'on laisse ça d'un côté et de l'autre côté, je pense pas que ce soit un problème d'allaitement, je pense que c'est simplement un problème de nudité. Si moi, je mettais une photo, alors je sais, c'est pas le même acte, etc., je déforme le propos, mais je me mets du même point de vue que cet essayiste. Si moi, je mettais une photo de quelqu'un en train de me téter le dard, ben je me ferais une bannière de Facebook. Alors oui, c'est pas de l'allaitement, mais enfin, ça reviendrait au même.
Mon Dieu, la comparaison, c'est horrible.
Mais oui, ouais. Mais voilà. Et je pense que même si c'était pas ma bite que je mettais, mais simplement quelqu'un en train de me téter le téton, je suis certain que ça ferait le même scandale et on fermerait ma page. Je veux dire, il faut aussi prendre des exemples qui sont un tout petit peu comparables, quoi. Et ça m'énerve. Ça m'a gâché le comic. Autant le comic, je l'avais trouvé relativement bon, autant ce côté féministe à outrance m'a tellement saoulé que du coup, j'hésite. Même si j'ai envie d'aller voir la suite, j'hésite à aller la voir, parce que si c'est constamment ça, personnellement, je ne me considère pas du tout comme misogyne. Après, peut-être que je le suis, hein, sans m'en rendre compte, mais je ne me considère pas du tout comme misogyne, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de sexiste. Et j'ai pas envie qu'on m'agite des leçons de morale sous le nez, alors que j'en ai pas besoin. Voilà.
De toute façon, je vais te dire, franchement, si tu l'étais, tu ne te rendrais pas compte que tu l'es, enfin tu ne dirais pas je ne le suis pas, donc de toute
façon...
Ouais,
puis j'aurais peut-être pas ce genre de discours non plus.
Non, voilà, mais donc, de toute façon, moi non plus, enfin voilà, c'est... On fait court aussi.
Il y a aussi, oui, non mais voilà, il y a aussi beaucoup de jeux d'humour, si certaines personnes ne le comprennent pas, là on peut faire, enfin...
Ouais. Mais
genre, c'est comme dire que Bruno est raciste parce qu'il avait une fois Super Noir au lieu de Superman Noir.
Super Noir, ça, Super Noir. Ma langue avait fourché. Ouais.
Et voilà, bon.
Et tu l'avais dit deux fois quand même.
C'était drôle.
Au bout de deux fois, ce n'est plus une erreur, hein. C'est une affirmation.
C'est un aveu.
C'est un aveu, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais enfin voilà, c'est un petit peu ce que j'avais eu comme problème à la lecture de ces Miss Marvel. C'est-à-dire que dès la première page, c'était le gros cliché. Vous avez jamais vu une femme faire ça? Enfin voilà, bon, et franchement, c'est comme si un Bendis ou un, je sais pas, n'importe quel auteur faisait parler Superman d'une manière, genre vraiment très très lourde. Bah voilà, enfin c'est exactement la même chose quoi. C'est exactement la même chose en fait. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Bon.
Je vais faire un rapprochement avec un autre auteur, Anthony Johnston, qui écrit Westland et qui écrit notamment The Fuse chez Image, qui avait parlé de son personnage féminin, puisque l'enquêtrice principale dans The Fuse est une vieille flic, la flic expérimentée. On a souvent, un peu comme dans Powers, dans Bendis, on avait le flic expérimenté Christian Walker avec Dina Pilgrim, qui était la jeune qui arrive. Et bien là, c'était un peu la situation inverse dans The Fuse. On avait le jeune flic qui arrive et son partenaire va être une flic plus proche de la retraite que du début de carrière, qui a un peu tout vu, tout vécu. Et c'est elle qui va devenir un peu son mentor, qui va être un peu la tête pensante de l'équipe. Et justement, on lui posait la question, quelqu'un dans les lettres lui posait la question, comment abordes-tu les personnages féminins parce que ton personnage féminin est fort, etc. Et lui, il disait, mais j'aborde pas mon personnage féminin. Alors, certes, je fais des personnages féminins, mais pourquoi? Parce que je les envisage pas comme des personnages féminins. Je les envisage comme des personnages, point. Et le mec disait, on aura gagné cette cause-là quand on se posera même plus la question de savoir si c'est un personnage féminin ou si c'est un personnage masculin, mais en se disant simplement que c'est un personnage.
Bah oui, mais moi c'est ce que je considère en fait. C'est franchement, quand je lis les comics, je considère qu'ils ont pas de couleur, qu'ils ont pas de sexe, c'est ça quoi. Il y a des personnages intéressants et il y a des personnages inintéressants. Ah. Et c'est tout quoi en fait. Finalement, ce qui m'intéresse c'est de lire de bonnes histoires. Après que ce soit un homme, une femme, un chien, ouais.
Après là, le truc c'est que
blanc,
c'est
noir,
c'est clairement. Enfin, j'ai pas vu le comics, mais c'est clairement qui est issu de comics qui joue un peu sur le thème des films de prison de femmes, qui était quand même un thème assez récurrent dans les années 70, 80, dans les films un peu grindhouse. Donc il y a quand même tout ce côté over the top qui doit être vachement mis en avant, je pense, dans le comics. Bon, là, vous attardez pas mal sur la lettre. C'est au final le comics quand même ça vous a plu quoi, mais faut pas que ça vous gêne.
Moi le comic m'a plu, mais c'est ce côté vraiment et puis bon cette espèce de tatouage qui monte partout, non compliant, non je j'accepte pas. Mais oui, t'acceptes pas, c'est logique que t'acceptes pas. De là à l'exposer ton tatouage, en faire un symbole de ralliement, enfin j'ai l'impression de voir le fameux mouvement
des chiennes de garde.
Moi j'aurais dit le Occupy Wall Street mais version féministe quoi. Tu vois. C'est un peu ça. Et franchement, ça me gêne. Je préfère 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois la position d'Andy Johnson en se disant mais on aura gagné quand on se posera plus la question de si c'est un homme ou si c'est une femme, point. Et je me dis que finalement, on a vraiment un gros débat ce soir sur le genre, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec les personnages concernant Thor, quoi.
Non, puis surtout, comme tu disais, Steve, tout à l'heure, c'est juste que on se sent pas concerné, finalement.
Ouais,
on se sent pas concerné, c'est-à-dire que elle nous embarque dans un truc, finalement, on a envie de lui dire, ouais, mais nous, on n'est pas misogyne, donc finalement, on s'en fout, quoi.
Enfin, elle t'embarque pas dans un truc, c'est un truc d'exploitation, ça. C'est une histoire de science-fiction,
c'est tellement toujours très, tellement présent, en fait, dans tout ce qu'elle écrit, que ça en devient chiant, on a envie de lui dire, ah, écoute, bon, c'est bon. Enfin, voilà, on a compris.
Voilà, je vais grossir le trait encore plus fort, mais c'est la même chose que Frank Miller qui nous déballe ses idées dans ses comics. Je ressens le même message politique sous-jacent derrière. Alors pas le même en termes de parti, mais c'est-à-dire que on nous impose un message et ça me gêne. Ça me gêne qu'on me l'écrase dans la gueule. On me dit tu le vois là ? Ben oui, je l'ai vu. J'avais pas besoin de toi pour le voir déjà. Donc j'aime pas qu'on me force la main comme ça en fait.
Bah après que ce soit bon ou mauvais, c'est quand même pas mal qu'un scénariste donne ses idées et appose ses. Enfin c'est quand même c'est comme quelqu'un qui écrit un roman. Il faut que surtout dans indé, oui. surtout quand c'est des créateurs owned.
Voilà, là c'est du créateur owned, donc on peut pas lui en vouloir. Ça aurait été chez Marvel, par contre, effectivement, c'était clairement un pass pour moi. Là, c'est du créateur owned, bon, elle fait ce qu'elle veut. J'ai envie de dire tant mieux. Je me tâte encore de savoir si j'irai voir le 2 ou pas. Il y a quand même cette dernière case qui me donne envie de voir vers quoi l'histoire pourrait évoluer. En termes méta, je trouve ça à gerber. En termes de comique, ça reste relativement correct, voire même bon.
Oui, moi je trouve ça intriguant. Est-ce que j'ai envie d'aller voir la suite? Pas spécialement, mais voilà, c'est intriguant. Et il y a ce discours sous-jacent qui simplement me lasse.
Voilà. Et au cas où ça aurait pas été clair pour les auditeurs, c'est pas qu'on n'est pas sensible à la cause féministe, c'est juste qu'on n'aime pas qu'on nous l'écrase en pleine gueule. Voilà, c'est juste pour être véritablement clair.
On n'est pas venu pour ça, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça.
On est venu pour se divertir, pas pour signer une charte, pour soutenir la cause.
Oui, c'est ça. On n'est pas là pour. C'est pas parce qu'on a acheté ce comic qu'on va signer la pétition de non à la violence contre les femmes. On n'a pas besoin de signer, forcément. Ouais. Non.
Bah oui, voilà, c'est ça.
Bref.
Enfin bref. Donc.
C'est parti en débat totalement sur autre chose, mais. Mine de rien, je pense que c'était aussi la réaction qu'il voulait, qu'elle cherchait à obtenir avec ce numéro-là. Mmh. Justement.
Donc,
oui, Benny.
Et on n'a pas donné les notes, finalement.
Un bail avec les réserves qu'on a pu donner. Si vous êtes vraiment allergique au côté méta, n'y allez pas.
Ouais, moi j'ai envie de check it plus, quoi. Enfin, voilà, c'est... J'ai bien aimé, mais sans plus. Enfin, voilà, il y a beaucoup de clichés quand même. Ça m'a pas transporté non plus, quoi. Bon.
Je vais faire une petite entorse au conducteur. Je vais te faire passer avant Bruno, puisque moi j'ai beaucoup parlé. Donc, comme on t'a pas beaucoup entendu, tu vas nous parler de Punks numéro 3.
Oui, tout à fait. C'est un comics complètement barré de Joshua L. Fialkoff.
Ça faisait longtemps.
Dont voilà, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent et. C'est un concept complètement délire où en fait on a des photos qui sont prises avec des sortes de montages où on prend des photos de corps sur lesquelles sont placées des têtes et les personnages principaux c'est Dog qui a une tête de bulldog, il y a Fist qui est en fait une sorte de gros point qui est sur la tête comme ça.
Mon futur personnage préféré, je pense.
Ouais, il y a Skull qui est une sorte de c'est Ghost Rider quoi. En plus, il arrête pas de donner des coups de poing de feu, il veut absolument détruire les testicules de Dog, donc ils sont un peu tout le temps en fight tous les deux. Et enfin, t'as Abraham Lincoln qui est en fait un
c'est une scène occupation. Hein.
Voilà, c'est Abraham Lincoln quoi. Toute sa famille est morte, mais il est encore en vie à notre époque. Et en fait, ils vivent tous ensemble dans une maison et il leur arrive des petites histoires qui durent une dizaine de pages. Donc il y a deux histoires dans le comics. C'est vraiment complètement débile, mais alors parfois c'est super drôle. Et là, il y a toute une partie du premier comics qui
qui délire à fond, où en fait on a toute une histoire qui se passe dans le frigo de cette maison, où en fait on va se rendre compte qu'il y a il y a Sean Connery qui vit dans le frigo, le Sean Connery du film Poursuite d'Octobre Rouge, et là il y a tout un procès qui est lancé contre les
Et ça a l'air
communistes.
aussi bizarre que le truc dont tu nous avais parlé, où dans le mur il y avait un micro-ondes qui faisait péter
Ouais,
le
non,
monde
là
ou je sais pas quoi là il y a deux
c'est
semaines.
encore plus bizarre, mais c'est quand même assez drôle parce que t'as plein de photos de Sean Connery qui sont réutilisées, t'as même Zardoz, quoi, qui apparaît à un moment.
Oh putain, Zardoz.
Ouais. Et
Oh putain.
donc alors ça n'a ni queue ni tête, c'est un peu à la South Park, quoi, parfois. Et t'as au milieu du comics, t'as des jeux. Dans le premier numéro, il y avait une sorte de jeu de plateau. Dans le deuxième, c'était des masques. Et là, dans le troisième, c'est carrément t'as de quoi faire du point compté pour essayer de recréer les personnages en point compté pour les amateurs. Donc il y a toutes les explications avec les fils qu'il faut acheter pour les couleurs et comment faire son point compté. Et enfin, alors là, la dernière partie du comic, c'est vraiment n'importe quoi. C'est une interview des quatre personnages qui vont interviewer Rick Remender. Et Rick Remender est en fait il a sa tête qui est greffée sur un poisson, et il dit n'importe quoi. Il parle, enfin il l'interroge sur ce que c'est d'être un créateur de comics, et je sais pas, ils lui font dire des trucs de fou comme ah bah de toute façon moi je suis juste un mec complètement neurotique qui passe mon temps à me masturber au-dessus de la tête de ma femme qui dort. Voilà. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont potes et que c'est des délires entre eux ou si c'est juste un tacle, mais enfin, c'était complètement surréaliste.
Imagine que c'est une anecdote qu'il lui est racontée lors d'un salon alors qu'il était complètement pété, le genre le secret honteux qu'il espérait qu'il ait oublié et que l'autre il le balance en plein comique.
Ouais, non, mais c'est.
J'attends de voir les répercussions.
Et puis c'est, bah voilà. En fait, ça porte bien son nom. Hein. C'est complètement punk comme comic.
C'est qui déjà la femme de Rick Remender?
Je sais,
C'est surtout
je
ça la
sais pas du
question
tout.
qu'on va se poser quand même après.
C'est un peu cochon à hein, essayer de réfléchir à ce que ça peut être. Mais à essayer de reproduire la scène
Encore heureux qu'il n'a pas fait dire ça à Matt
dans
Fraction,
sa
parce que
tête.
alors là, quelle issue de comics serait montée au créneau.
Mais voilà, enfin c'est clairement un ovni qui fonctionne assez en one shot, hein, parce que du coup là comme j'ai voulu lire le troisième, j'ai lu les deux premiers pour essayer de voir s'il y avait une continuité, mais clairement ça on peut prendre chaque numéro de façon indépendante. Et bah, je dirais quand même pas un bail, mais c'est clairement un check-it pour voir si le style vous intéresse. Mais il y a deux trois trucs qui m'ont bien fait marrer quand même. Donc voilà, un check-it pour un truc complètement ovniesque, quoi.
C'est publié chez qui?
C'est chez Image,
Excuse-moi,
hein, en plus, hein,
chez
ouais.
Image.
Et puis j'ai oublié, donc il y a Fialkoff et Chamberlain. J'arrive pas à retrouver son nom. Alors attends, enfin c'est Chamberlain. Je sais pas ce que son nom de famille. Ils sont tous les deux.
Richard.
Richard Chamberlain. Voilà, c'est possible.
Mais t'es
N'importe
con.
quoi.
Je te dis Richard, toi tu me dis oui,
Ouais,
Richard,
c'est
mais non.
Richard. Non, non, mais c'est fun, quoi. C'est rigolo.
Je sais que Bruno, on peut le faire marcher facilement. Ah, qu'est-ce que je suis un enfoiré quand même. Allez, on continue avec du Valiant, puisqu'il s'agit de la mini-série The Valiant.
Flo.
Mini-série en quatre, écrite par Jeff Lemire et Matt Kent. C'est vrai que j'avais dit dans l'intro Jeff Lemire tout court, mais il y a aussi Matt Kent, avec des dessins de Paolo Rivera, ancrés par son papa, Joe. Et on va
Dream
assister
Team.
à la Dream Team, voilà, les Avengers des Avengers de l'univers Valiant.
D'accord,
Ils
encore
sont
mieux
les...
que Unity alors.
Encore mieux que Unity parce que là, on a pris d'un mec quand même que des mecs qui ont leur propre série, quoi.
D'accord.
Voilà, on va avoir dans l'équipe Geomancer, Bloodshot, Archer, Eternal Warrior, mais aussi Exo Manowar. Donc
D'accord.
vraiment, on a pris les plus grosses têtes d'affiche qu'on a mélangées. Alors, c'est un numéro introductif où justement notre ami Eternal Warrior, enfin notre ami ou pas d'ailleurs, à vous de voir si vous l'aimez ou pas, va essayer de monter une équipe afin de continuer de sa quête, hein, de défendre Geomancer à travers ses différentes incarnations. Et on va voir donc justement ses anciens échecs. On va voir chaque personnage se présenter. C'est franchement très reader friendly. Si vous voulez découvrir l'univers Valiant, c'est un bon moyen de commencer. Franchement, vous aurez les personnages majeurs de présenter, même si c'est succinctement assez pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ils agissent, qui ils sont, quels sont leurs pouvoirs et ce qu'ils font. Et puis, les voir agir tous ensemble. Ce sera pour les prochains épisodes. Là, on est vraiment sur un numéro introductif. C'est franchement très sympathique. Ça se lit super facilement. C'est hyper agréable. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Limite, je me suis dit, oh merde, c'est trop court, quoi.
D'accord.
Bon, après, à la fin, on a pas mal de visuels de comment Paolo Rivera a travaillé ses planches. Il montre aussi qu'il a changé son style puisqu'il a travaillé pas mal en digital, pour la première fois d'ailleurs. Il a travaillé en digital, c'est-à-dire à la palette graphique, etc. Et enfin, le résultat est quand même relativement bon. Hein. Y a pas de doute, c'est vraiment très très sympa. Franchement, pour moi, c'est un gros bail. Et encore plus, si vous voulez vous mettre à Valiant, commencez par ça. Si vous voulez pas chercher les back issues, vous trouvez qu'il y en a trop, vous savez pas vraiment par où commencer, commencez par ça, ça vous donnera une bonne vision de qui sont les personnages les plus importants de l'univers Valiant, et puis ensuite de pouvoir aller rechercher les séries qui vous intéresseraient à loisir. Donc bye pour moi pour ce The Valiant qui démarre très très bien, cette mini-série. J'ai hâte vraiment de retrouver ce comic le mois prochain. On continue avec toi, Benny, qui va retourner chez Image et qui va nous parler d'amour, de joie, de fraternité.
Ouais, Robert Kirkman au scénario et Charlie Adlard au dessin, donc je parle de Walking Dead, évidemment.
Robert Kirkman.
C'est Robert. Robert Kirkman, hein, voilà. Et Charlie Adlard.
Bon. Il y a quelques restants du Nord, j'ai l'impression.
Ouais. Walking Dead. Voilà.
C'est violent.
Ouais. Donc,
je ne dirais pas que j'ai entendu la chose prononcée comme ça cette semaine au boulot. Quelqu'un qui a prononcé Walking Dead.
Walking Dead. Oh mon Dieu.
Je me suis retenu. Ouais. Mais la main avait envie de partir, quoi.
Cette personne parlait de la série télé, je pense, en plus.
Non, parler du jeu vidéo, mais peu importe. Walking Dead, quoi. Okay. Walking Dead, quoi. Je me suis dit, pour peu qu'elle me dise Blood, là, c'est bon. Je la cartonne, quoi.
Il y a beaucoup de Blood dans Walking Dead.
Oh, ouais, hein. Le nazi grammar, là, de l'anglais, là. C'est bon.
Oh, le nazi grammar, non. Ah bon, bref. C'était donc bien, c'était un bail, merci.
Voilà, donc. Carl a secouru Sophia qui s'était fait attaquer par deux vilains garçons. Le seul problème, c'est que Carl les a à moitié, les a quasiment tués, quoi, à coups de pelle, ce qui fait des ordres quand même dans la petite communauté. Et du coup, les parents des deux victimes, en tout cas, c'est comme ça que les parents considèrent leurs enfants, ne sont pas contents après Carl et veulent le bannir. Donc c'est la merde, hein. Concrètement, ça va être encore de grosses embrouilles en perspective. Et puis, y a Jésus, souvenez-vous, ce personnage barbu, Jésus, qui au fait a ramené l'un de ces fameux comment on pourrait les appeler en français, les whisperers,
donc les chuchoteurs.
Les chuchoteurs, voilà, il a ramené un chuchoteur au camp. Alors je vais pas vous révéler qu'est-ce que c'est que ces fameux chuchoteurs, mais en tout cas, Carl se retrouve enfermé dans une
cellule.
Si on
a écouté les Comics Weekly précédents.
Je sais plus si j'ai donné l'info, en fait. Si,
on sait très bien que ce sont des gens qui parlent. On dira
ça comme ça. Oui, voilà. Mais en tout cas, Carl se retrouve dans une cellule, et à côté de sa cellule, eh bien, il y a ce fameux chuchoteur. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, et c'est déjà pas mal. Bon épisode. Vraiment bon épisode. Encore une fois, j'aime bien ce qui s'y passe, puisque y a toujours un intérêt renouvelé, quoi. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc c'est toujours très bien, un bail, quoi. Voilà.
On continue avec toi, Bruno. John Carter, numéro 2, le relaunch de cette série avec les droits chez Dynamite.
Oui, tout à fait. On n'avait pas parlé du premier numéro.
Dynamite.
C'est écrit par Ron Martz avec des dessins de Abhishek Malsouni. En fait, c'est pas vraiment un relaunch qui repart du tout début, hein. C'est-à-dire que on est clairement déjà dans un univers assez établi, mais ça fait presque une suite directe au film. C'est-à-dire que si vous avez vu le film et que vous connaissez pas plus que ça l'univers de John Carter, vous pouvez tout à fait lire ce comic. C'est dans le premier numéro, de toute façon, la l'univers est quand même très bien réexpliqué travers les mots de Jatoris qui décrit un petit peu ce que c'est la planète Mars et qui est le personnage de John Carter. Mais là, on est clairement déjà dans une invasion en fait alien de la planète Mars qui est menée par un personnage mystérieux qui, à la fin du premier numéro, s'est révélé être un capitaine en fait de l'armée terrienne qui connaissait John Carter à l'époque quand il était dans l'armée et qui essaye de se venger de lui. Et on ne sait pas comment il a pu atterrir sur ces différentes planètes et mener ce groupe d'extraterrestres pour envahir Mars. Mais voilà, il y a quand même pas mal de petits mystères à éclaircir. Sachant que sur Mars, comme vous le savez, les personnages terriens possèdent des pouvoirs un petit peu comme Superman, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voler, enfin de sauter très haut, d'avoir une force surhumaine, ce qui donne justement un personnage de John Carter assez super-héroïque, quoi.
C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le Soleil Rouge, c'est la planète rouge hein, qui leur donne les pouvoirs.
C'est ça, c'est ça. Et donc en fait, le méchant a réussi à conquérir Helium, donc la capitale de Mars. Il a capturé la très belle et très peu vêtue déjà Tauris.
Et ils ont tous des voix de merde hein, sur cette capitale.
Helium, oui. Voilà comme ça.
Putain, j'avais même pas vu celle-ci.
Et en fait, donc ils essayent de tendre un piège à John Carter qui était parti repousser les ennemis en dehors de la ville et qui essaye par tous les moyens de sauver sa Dulcinée. Côté graphique, c'est très propre. Il y a beaucoup d'action, c'est assez sympa. J'aime bien, j'aime beaucoup les dessins. Côté scénario, c'est de la bonne aventure. On va dire assez classique, c'est digne d'un Tarzan, d'un John Carter ou compagnie, quoi, donc ça, c'est fidèle.
C'est vraiment la meilleure review que j'ai jamais vue. côté graphique, j'aime bien, voilà, côté scénario, c'est digne d'un Tarzan.
C'est très réussi, hein, graphiquement.
En même temps, venant d'un truc d'Edgar
Rice Burroughs. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et non, c'est bien, ça me rappelle un bon épisode de série B qui pourrait passer à la télé. Je le regarderai avec plaisir. Il y a de l'action, c'est sensuel, il y a de l'humour et il y a des hommes musclés qui se battent contre des aliens moches. Donc voilà, ça c'est bien la formule de John Carter dans un bel écrin. Donc pour moi c'est un bon check-it.
J'aime bien cette traduction, c'est une bien belle merde, mais dans un bel écran.
non, c'est vraiment pas mal.
Mais bien présenté.
Ce qui tout de suite passe toujours mieux, évidemment.
C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal.
Pour Noël, offrez-vous un beau caca dans un bel écran.
T'es con.
Tu t'es fait du Dynamite en série hein, cette semaine, puisque tu nous as fait aussi le premier numéro de Lady Demon.
Et oui.
Serait-ce la version Lady Death de J'ai plus les droits?
C'est un personnage de Chaos, et effectivement, alors Lady Death, je suis complètement ignorant sur ce personnage. Donc après, vu son nom, je pense qu'elle a un peu les mêmes pouvoirs que cette fameuse Lady Demon.
Ben Lady Death était, oui, voilà, ça faisait partie de ce chaos. Ouais. Hein,
je pense que c'est la remplaçante.
De Brian Pulido, hein, si ma mémoire est bonne. Et c'est les seuls droits qu'il a récupérés. Il cherche toujours à le publier, d'ailleurs.
Ça a été annoncé partout. Ouais, dans le prochain preview, enfin dans le preview actuel, là, il y a la série Lady Death qui va recommencer avec je sais pas combien de couvertures variantes. Chez un petit...
Qui l'auto-publie. Ouais. Il est passé par plusieurs maisons d'édition. Il a laissé tous les droits de Evolerny, de toutes les licences Chaos, sauf Lady Death qu'il a gardé vraiment, absolument.
Voilà.
Donc c'est pour ça que je me demandais si Lady Demon ne serait un Lady Death de J'ai plus les droits.
Je vais t'expliquer les origines de Lady Demon et tu vas me dire si ça ressemble à Lady Death.
Ça remonte à des vieux souvenirs pour moi.
C'est écrit par Aaron Gillespie et au dessin c'est Mirka Andolfo. Donc graphiquement, la dessinatrice, elle a un style, c'est très, comment dire, c'est un peu cartoony, c'est très joli. Parfois, chez Dynamite, il y a des titres que je trouve pas très beaux, mais là c'est vraiment propre. C'est pas très détaillé au niveau des fonds, c'est-à-dire que voilà, les décors c'est hyper minimaliste, mais par contre les personnages sont plutôt cool. La Lady Death, elle est méga sexy. Lady Demon. Alors imaginez en fait Lady Demon, c'est un personnage qui a pris la possession d'une jeune fille qui s'était fait assassiner et juste avant qu'elle soit envoyée en enfer, elle a pris possession de son corps et du coup elle l'a ranimé et elle est capable un petit peu comme Hulk de prendre forme à travers son corps. Et donc deux jeunes filles un peu frêles, elles se retrouvent en bimbo. Bah, à moitié nu, avec des cornes et super balèze, avec des pouvoirs. Quoi.
Ça va plaire à Kelly Sue des coniques. Hein.
Voilà. Et donc, il y a des gros plans sur ses fesses. C'est très, très sexy.
C'est le meilleur.
C'est très sexy. Ouais, et
le meilleur, morceau, hein,
et c'est très, très gore aussi. Il y a des explosions de mains. Il y a un ton aussi un petit peu assez mature au niveau des dialogues. Il y a Lady Demon, elle est assez badass. Et franchement, c'est assez plaisant. Quand elle crache, elle est capable d'enflammer les gens avec sa salive, donc c'est un peu méchant. Et voilà. Et en fait, en parallèle, on va suivre le destin de cette jeune fille qui a été assassinée et dont elle a pris le corps, qui est mêlée probablement à en fait une vengeance, puisque son père était flic, c'était le shérif de la ville et il a été lui aussi tué, tout comme elle. Et donc, elle va essayer d'enquêter. Et pour cela, elle va utiliser les pouvoirs de la fille qui est la fille démon. Donc c'est de la vengeance, c'est du grindhouse, il y a un petit peu de fantasy aussi puisqu'on a pas mal de scènes qui se passent en enfer et c'est très plaisant. Donc j'ai bien aimé. Pour moi c'est un bail ce numéro.
D'accord. On va terminer notre section 1D avec les TP. Quelques TP cette semaine. On a notamment chez IDW le fameux John Buscema Silver Surfer Artist Edition. Qui sort au prix de $50.
Oh non.
De 150 dollars, oui. Pardon. Excusez-moi. Oh, c'est cadeau. C'est $800.
Pas cher.
Moi, je
sais pas. Le Bordeaux, ouais, on fait ça. Ouais.
Non, non. Ouais.
Cette artiste édition contient les épisodes 5 et 6 du Silver Surfer de l'époque, qui étaient tous les deux des numéros doubles, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il n'en a que deux. Il y a aussi des covers, des galeries de pages, etc. Bref, les artistes éditions, vous connaissez, ce sont de très très bons produits, des dessins, juste des dessins, justement.
Des planches originales, voilà. En fait, scannées en haute définition.
Des dessins, tout, tout, tout.
Autre vieillerie de chez IDW, Superman Silver Age Newspaper Dailies, le hardcover volume 3 sort cette semaine au prix de $50. Il va reprendre des strips de 1963 à 1966 pour les fans de Superman et les fans du vieux strip, qui sont pas forcément très faciles à trouver aujourd'hui.
Des fans qui sont pas forcément encore en vie, hein, surtout.
Ok, ça c'est fait. Dans le côté un petit peu plus confidentiel, la série Disenchanted de Simon Spurrier, ah, oui. Une série digitale, sort en ce moment chez Avatar en format relié. Vous avez le deuxième tome qui est sorti cette semaine au prix de $20. Ouais. Donc Simon Spurrier au scénario et German Eramuspe. J'espère que je le prononce bien, au dessin.
J'avais lu le premier numéro en digital et c'était pas mal. C'était les mini-pouces version trash, en fait.
Hein?
Chez Boom, nous avons...
Et Oncle Charlie, t'as vu mon Gigi?
Chez Boom, nous avons... C'est horrible, là, de continuer, c'est hyper dur. Hein. C'est hyper dur. Parce que j'ai des images horribles, maintenant. De l'autre avec son casque d'aviateur, là. Oh mon dieu. Hit qui est sorti chez Boom, Bruno.
Oui.
Le premier TP.
Très belle.
Qui s'appelle 1955. Série de Bryce Carlson et de Vanessa Del Rey au dessin.
Ouais, très bon polar dans les années 40.
Ah non, 50.
Bah, dans les 5. Années 50, oui.
À Hollywood. 55, absolument du TP. Hein. Il s'appelle 1955.
Non, non, c'était vraiment cool. Et puis, du coup, ça avait permis de connaître cet artiste qui a un style. Vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc
du coup, ça m'a permis de connaître cette décennie que j'apprécie tout particulièrement.
Donc la première mini-série, hein, parce que c'est une première mini-série, et il y aura sûrement des suites, puisque ça s'appelle volume 1, donc, c'est logique. Est au complet, c'est au prix de $15. Vous avez aussi une petite histoire qui est imprimée uniquement pour ce TP, qui s'appelle Bonnie, et une introduction par Dwayne Swierczynski. Voilà, pour être totalement complet concernant ce TP. Nous avons aussi dans les gros bouquins pour se faire plaisir ou faire plaisir à Noël, Art of Zinscope qui sort au prix de $100. C'est le deuxième volume, ouais. Avec notamment les plus belles couvertures de Zinscope. C'est à donc $100, c'est du gros hardcover en slipcase édition et c'est limité à 1500 copies. Donc si vous avez vraiment envie de faire un gros cadeau pour quelqu'un que vous connaissez qui est super fan de l'univers Zinscope, qui est super fan des couvertures, parce que c'est principalement des couvertures.
Zinscope,
beaucoup de Grim Fairy Tail.
Voilà, Grim Fairy Tail notamment. Mais pas que, ils ne font pas que ça, hein. C'est eux qui publient aussi actuellement la saison 10 de Charmed. dont tout le monde se fout puisque le premier numéro était juste en bas du classement.
Ah, j'ai feuilleté, c'était c'était moche.
Quelque chose de peut-être un peu plus glorieux, enfin quoique, il y a pas de honte à lire du Cinescope, hein, j'en lis moi-même, donc je vais pas bouder mon plaisir. Nous avons le Winsor McKay Complete Little Nemo en version XL hardcover. Ça sort chez Tachen, la complète de Little Nemo, donc de 1905 à 1927. Pour la première fois, les 550 épisodes sont combinés dans ce bouquin.
Donc, chez 550 Tachen, épisodes.
Ouais, bah ce sont des petits épisodes, hein. Mais il y avait 550 épisodes de Little Nemo in Slumberland, donc par Winsor McKay, hein, son créateur. C'est au prix de $200, mais c'est du Tachen. Quand même. C'est du Tachen. Hein.
Ouais, ça doit être voilà, Puis déjà, c'est un format assez.
C'est un format XL, ouais.
Énorme, ouais. Et j'ai des manques à ce niveau-là. J'ai jamais lu cette histoire de Little Nemo et il paraît que c'est quand même assez grandiose. Donc.
Vous avez aussi énormément de textes hein, qui accompagnent ces histoires avec des illustrations, des photographies historiques, etc., des documents, avec tout ça compilé par Alexander Brown qui est un historien.
Ouais. À noter qu'il y a la suite de, enfin qui est publiée actuellement chez IDW et dont le premier numéro m'avait beaucoup plu. L'univers de Little Nemo continue.
C'était un des strips généralement en une page. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant d'épisodes collectés. Mais voilà, on peut faire confiance à Tachon pour sortir d'énormes éditions très très belles, très très bien, finies comme produit. On se rappelle notamment des DC notamment.
Et Marvel 75 ans.
Voilà, donc $200 si vous voulez faire un gros cadeau de Noël à quelqu'un qui est ultra fan, bah, c'est l'occasion. Première édition en un seul et même volume. Voilà, c'est tout pour les gros TP de la semaine, des grosses idées de cadeaux de Noël. On va terminer avec DC. Voilà, DC, Bunny, c'est à toi, c'est ta partie, c'est cadeau, c'est pour toi.
Ouais, Batman Eternal 36 par Scott Snyder et James Tynion IV à l'histoire. James Tynion IV est au script. Ray Fawkes, Kyle Higgins et Tim Seeley sont en artiste consultant. Fernando Blanco est au dessin. Marcelo Maiolo est aux couleurs, Steve Wands est lettreur, Tommy Lee Edwards est à la couverture, et on a Chris Conroy à l'éclairage, Mark Doyle qui est à la batterie, et
surtout Marcelo Maiolo qui fait aussi la cuisine.
Voilà, exactement.
Il y a les pizzaiolo et il y a les maiolo, ceux qui font donc la mayonnaise.
Il fait un mélange entre de la mayonnaise et de l'aioli.
Je crois qu'on l'avait fait la semaine dernière.
Oui, oui, en plus, je crois que
c'est terrible. Hein. Les mecs, ils recyclent
les
vannes.
Ça recycle les vannes. Et rappelons que les vannes Comic City sont encore meilleures. Plus on les répète, plus elles prennent de la valeur.
De la valeur, carrément.
De la valeur, carrément. Plus meilleures elles sont cotées. Et plus elles font rire.
À 200 euros sur eBay.
Voilà. Surtout la blague sur Maiolo, la mayonnaise, c'est à mon avis, elle va coter sévère dans quelques temps.
Je pense qu'on va sortir une variante cover de cette vanne.
Ouais, on va faire des t-shirts Maiolo y a mayonnaise.
Maiolo. Maiolo.
Bon, bref, des t-shirts déjà prétachés, ce serait bien.
Prétachés. Il faut que tu goûtes pour savoir, c'est le premier t-shirt en goutorama. Voilà, Harley Quinn a fait l'odorama, nous on fait le goutorama.
Est-ce que c'était bien de la mayonnaise dessus? Ah bah non, c'était du... Bon bah voilà.
Putain, mais qu'est-ce qu'on a comme idée de merde quand on est crevé, c'est incroyable. Rappelle-toi, c'est comme ça qu'on avait eu le podcatch.
Oui, bon, on y avait déjà pensé avant, mais disons que c'est comme ça qu'on a décidé de le faire, quoi. Bref,
c'était de la pub gratuite, hein. T'as vu comment je la place, la pub gratos?
Ouais. Podcast numéro 3 que vous pouvez retrouver sur Synops Live en replay si tout va bien.
Pas encore. Demain, bientôt. Parce que malheureusement mes horaires de boulot n'ont pas coïncidé avec mes disponibilités.
Enfin,
mais
demain non, hier.
Enfin oui.
Oh là là, attention là.
Oh là là.
Vous allez casser
le mindfuck temporel quoi.
Oh là là, oui, on est dans Interstellar. Interstellar. Ouais, touche tout lourd.
C'est la suite non officielle, non, c'est ça.
C'est ça.
Bon alors, ce Batman Eternal.
Bon oui, Batman Eternal.
En
plus, c'est un très bon épisode parce que on connaît les origines, mais les motivations, voilà, de Jason Bard, Pourquoi déteste mais pourquoi est-il si méchant finalement, ce Jason Bard? Pourquoi déteste-t-il Batman? Et va-t-il réussir surtout à vaincre, à détruire Batman? Eh bien voilà, on a vraiment toutes les explications. C'est vraiment un épisode très riche, très très ample, qui il vous prendra plusieurs minutes pour le lire. Il vous demandera plusieurs minutes, voilà. Et donc voilà, donc très très bon épisode,
Oui, parce que j'allais dire, c'est bizarre, c'était pas ta réaction du tout à l'heure quand tu as fini l'épisode avec nous en direct.
La fin m'a vraiment déçu. La fin m'a vraiment déçu parce qu'au fait, voilà, on apprend que derrière Jason Bard, derrière Hush, derrière tout ce beau monde, bah au fait, il y a quand même quelqu'un qui est responsable toujours de la manipulation initiale de Gordon. Et du fait que bah le Wayne Manor, enfin le l'asile d'Arkham se soit effondré et que du coup ça a été remplacé par le Wayne Manor, voilà, donc il y a quelqu'un encore derrière tout ça. Et Bruno, tu pratiquement t'étais, enfin voilà, c'est pas le Joker, parce que le Joker il l'utilise dans Endgame, donc il va pas le foutre aussi dans Batman Eternal.
Rappelons
que
Batman Eternal se passe avant Endgame, hein.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est pratiquement ça. Et quelle déception, parce que je me suis dit, oh non, encore quoi, franchement, Snyder, s'il te plaît. Enfin voilà, il était tellement bien parti.
Je crois avoir deviné.
Oui, bah oui. Non mais Snyder était tellement bien parti. En plus, le personnage de Jason Bard se suffisait à lui-même. Et voilà. Et cet épisode, enfin, je veux dire, c'est vraiment les montagnes russes. J'ai trouvé ça excellent, cet épisode. Je me suis dit, bah vraiment, Batman Eternal, ça n'a cessé de s'améliorer de numéro en numéro. Et là, d'un seul coup, j'ai envie de me dire, bon bah voilà, pour moi c'est terminé quoi, avec ce numéro 36, ça pourrait être la fin. Donc c'est vraiment la fin d'un acte, en tout cas. C'est comme si on était au bout de l'acte 2. Mais l'acte 3 me saoule déjà. Voilà. Et là, j'en ai vraiment dit beaucoup d'indices, justement, et c'est même ça, même de dire ça, c'est un gros indice. Donc voilà. Donc je ne dis plus rien.
Genre, t'en avais pas encore assez dit.
Voilà. Donc c'est un bail malgré tout. Mais j'ai vraiment, enfin, j'ai peur pour la suite, quoi. Je suis déçu vraiment de cette dernière page. Quel dommage.
Bien.
C'est tout. Voilà.
Eh bien, il nous reste plus qu'à conclure avec les TP de DC, et là, une bonne collection de TP cette semaine. Nous avons, pour démarrer, Batman Legends of the Dark Knight TP volume 3, hein, cette série qui sort d'abord en digital, qui est écrite par Paul Jenkins. C'est au prix de 17$, vous aurez les épisodes 11 à 13 papier, je précise bien, c'est pas 11 à 13 digital, sinon ça ferait vraiment trop cher, ainsi que le 100 page super spectacular. Tout ce que contient ce numéro. Il y a du Omar Francia dedans, il y a du Raphaël Albuquerque aussi. On a aussi chez DC le dernier TP de Nightwing. Cette série qui ne sort plus vraiment en français, je crois.
Si, ils vont continuer en TP. Si.
Et ils vont le continuer comme Unwritten?
Non, il y a déjà les 4 premiers tomes qui sont sortis, le 5e sortira prochainement.
Ah, bah le 4e tome, je l'ai raté, tiens.
Si, il est déjà sorti. Et après Grayson sera dans les kiosques aussi.
Ouais, si, Nightwing est toujours sorti à rythme régulier en librairie. Mais
j'avais l'impression que ça fait un moment que j'en avais pas vu sortir, c'est pour ça que je croyais qu'ils avaient arrêté la publication.
Mais moi, j'ai lâché l'affaire en fait après les deux premiers.
Enfin, ça devenait moins bien aussi, hein, clairement.
En tout cas, au prix de 17$, vous retrouverez la fin de la série par Kyle Higgins, évidemment, Brett Booth au dessin et Eddie Barrows. Ce sont les épisodes 25 à 30, avec ce fameux épisode 30 hyper hardcore où Batman explose la gueule à Nightwing à grand coup de poing.
Ridicule, quoi, cet épisode, je trouve, surtout, malheureusement.
Un épisode navrant, trash, ouais.
Ouais, navrant.
Et vous aurez aussi l'anneau numéro 1, afin d'avoir la série complète en 5 tomes. Toujours l'univers plus ou moins dérivé de Batman, Red Hood and the Outlaw, série qui ne sort justement pas en français, le volume 5 sort aussi, les épisodes 27 à 31, plus les épisodes du DC Universe Prisons, numéro 17 et 18, avec notamment un tie-in de Batman Zero Year à l'intérieur, tout ça au prix de $15, c'est vraiment pas très cher.
Série sympathique, mais irrégulière, je dirais.
James Tynion IV est au scénario, principalement pour ce tome. Continuons avec du Superman, réédition de Superman for All Season en version Deluxe hardcover. C'est au prix de $30, on va pas s'étendre, hein. Tout le monde connaît cette série de Jeff Loeb et Tim Sale. sorti déjà, alors que le numéro est sorti il y a pas longtemps, mais en même temps, je pense que il devait la prévoir depuis longtemps, cette édition, le Superman Unchained en version deluxe hardcover au prix de $30.
Un bel écrin pour ce caca.
Pardon. Voilà, exactement. Ouais, ouais, un truc,
ouais, non, mais je dis ça, en plus, j'ai même pas fini Unchained, c'est juste que c'était tellement long à sortir que j'ai pas rattrapé mon retard.
C'était pas terrible, franchement, c'était pas très intéressant. Non, franchement, une équipe scénaristique, une équipe créative, Snyder, Jim Lee, enfin, voilà, ça pouvait donner envie tout de même. Et, c'est vraiment du Superman tellement classique, tellement cliché, qu'honnêtement, il y a pas grand chose à sauver là-dedans. Bon.
En tout cas, voilà, je sais que ça sort en français, mais pour ceux qui ne voudraient, qui voudraient la version de luxe hardcover, bah pourquoi pas, c'est au prix de $30. World's Finest Volume 4 en TP, First Contact, ce crossover entre World's Finest et la série Batman Superman. Donc les épisodes 18 à 22 de World's Finest et 8 et 9 de Batman Superman au prix de $17 du Paul Levitz, notamment avec du RB Silva et Jelly au dessin.
Et du Greg Pak, du coup, pour...
Pak, oui, il était pas annoncé sur... Non, je crois qu'il avait écrit, d'ailleurs, tout le crossover à Paul Levitz. Je ne sais plus, d'ailleurs.
Peut-être.
Tu mets le doute. Enfin, chez Vertigo, je l'ai classé dans la partie DC, hein, Royal Masters of War, cette mini-série de Rob Williams et Simon Colby, cette mini-série en 6 parties, sort en TP cette semaine au prix de $15. Et enfin, un truc, je pensais pas qu'il le ressortirait, c'est du Jim Lee. C'est du Jim Lee, c'est du Wildstorm. C'est la complète de Divine Right, The Adventures of Max Faraday. Vous rappelez-vous de cette série ?
Nope. De nom, simplement.
Et oui, Divine Right, qui est plus ou moins Chuck, en version comics.
Ah, d'accord.
Où ce fameux Max Faraday, en surfant sur le net, reçoit l'équation de création qu'il a accidentellement téléchargée. Et bien sûr, d'autres vont le... Enfin, qu'il a téléchargé dans sa tête, hein, mais enfin voilà. Et du coup, d'autres agences vont essayer de le buter. Donc il y a les 12 épisodes de la série, ainsi que le preview, le numéro 1,5, c'était la grande époque des Wizards et des numéros 1,5, ainsi que le Divine Intervention Wildcats numéro 1 et Divine Intervention Gen 30 numéro 1, qui était un espèce de crossover qu'il y avait à cette époque-là. Tout ça pour $25. Voilà, je pensais pas que ce truc ressortirait un jour en version complète. Et voilà, c'est du Jim Lee et du Scott Williams à l'ancrage. Enfin, graphiquement, c'est très propre. Scénaristiquement, c'est un peu vieilli. C'est genre le début des années 2000, donc la narration est pas exactement la même. Mais ça reste quand même lisible. Si tant est qu'on aime la période Wildstorm, quoi.
Ouais.
Une bonne idée peut-être de cadeau de Noël pour ceux qui ont envie de découvrir ou redécouvrir cette série de Jim Lee. Assez méconnue quand même. Voilà, c'est tout pour cette 225e édition du Comics Weekly. Ouais. 225.
C'est ouf, hein.
Sa mère. Histoire de finir en beauté. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, évidemment, sur Twitter, @ComicCity, et nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Les mails seront lus et on répondra aux éventuelles questions dans le Weekly News que vous pouvez suivre tous les mercredis sur synopslive.net. en direct, ou retrouver tous les jeudis sur le site que j'étais en retard pour publier aujourd'hui, mais que j'ai publié pendant cette émission. Wow. Parce que oui, multitâche.
C'est bien.
Voilà. J'étais un petit peu à la bourre, malheureusement. Et puis, bien sûr, vous nous retrouverez la semaine prochaine pour une prochaine dose de review, et vous écoutez tous les anciens épisodes si vous les avez ratés, ou si vous avez envie de les réécouter. Donc, il faut bien les re-télécharger pour les réécouter, ça nous fait monter les stats. Oui, supprimez-le et re-téléchargez-le, ça nous fera plaisir. notamment sur le site,
boucle,
évidemment. En boucle. On décline toute responsabilité pour votre santé mentale, cependant. Voilà, vous vous retrouvez tout ça sur le site, bien sûr, comiccity.fr ou sur iTunes. Merci à vous, messieurs, alors que vous étiez malades.
Oui, bah ouais.
Oui.
Donc,
pour cette émission haut en couleur, avec beaucoup de bas, puisque nous avons parlé de féminité. Des bas. Voilà, et des porte-jartelles aussi.
Et de débats. Des débats, des débats.
Et des bas,
et voilà. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.
C'était... Oui, à bientôt.
Ciao.